Bienvenue aux Apatrides Anonymes sur choc.ca. Marie-Ève au micro qui claque des doigts pour cette dernière émission du mois de mai. Les Apatrides Anonymes, c'est votre rendez-vous bimensuel pour une revue commentée, expliquée et décortiquée des actualités nationales et internationales en lien avec l'immigration, le racisme, l'extrême droite, les abus policiers, les enjeux autochtones et bien plus encore. Je suis toujours évidemment en compagnie de Mathieu et Simon. Bonjour, bonsoir, vous deux.
Bonsoir, bonsoir.
Salut, salut.
Qui vont s'alterner donc entre présence au micro et intendance à la régie.
Intendance, quand même.
C'est presque un tour du monde qu'on vous propose aujourd'hui parce que on vous amène dans le Sahara, en Libye, en Turquie, en Tunisie, en Syrie, au Sénégal, au Myanmar, au Népal et en Argentine.
T'as oublié le Québec et Canada.
Et on a aussi, bien sûr, les actualités d'ici, Simon, bien sûr, évidemment.
Ben oui.
Des questions sur les questions relatives à l'immigration aux Premières Nations et on va aussi parler de profilage racial. J'ai choisi aussi des pièces musicales un peu plus longues qu'à l'habitude, histoire là, d'aérer notre contenu qui est toujours bien touffu. Alors, si Mathieu est prêt à lancer ça, on commence ça dans quelques secondes. Il n'y a pas que les mers qui se transforment en cimetière pour les personnes migrantes en quête d'une vie meilleure. Les déserts le sont de plus en plus. Chaque année, elles sont nombreuses à disparaître dans le Sahara. Elles peuvent se perdre, mourir de déshydratation ou être victimes de groupes mafieux. Combien meurent dans le désert sans laisser de traces? Impossible de le savoir précisément parce que l'association Alarm Fund Sahara n'a pas le matériel ou les véhicules nécessaires pour aller chercher ces personnes-là. Mais en Algérie, alors que les expulsions illégales de migrants se poursuivent de façon soutenue, 11 personnes sont mortes de soif dans le désert à la frontière du Niger en 2 mois. Selon Alarm Fund Sahara, depuis janvier 2024, ce sont déjà 10 000 personnes qui ont été abandonnées dans le désert par les autorités algériennes. L'association craint que si la tendance se maintient, on risque de dépasser cette année le chiffre de 2023 qui était de 23 000 expulsés. Alarm Fund Sahara parle d'un phénomène d'expulsion domino. J'explique, c'est que depuis des mois, par exemple, la Tunisie expulse elle aussi illégalement des subsahariens vers la Libye et l'Algérie. Quand les autorités algériennes constatent qu'ils ont traversé la frontière, elles les arrêtent, puis les expulsent à leur tour vers le Niger. Et il n'y a pas que l'Algérie qui abandonne des personnes migrantes dans le désert. Selon une enquête de plusieurs mois menée par des médias internationaux dont Le Monde et le Washington Post avec le collectif de journalistes Lighthouse Reports, des dizaines de milliers ont été arrêtés en raison de la couleur de leur peau et abandonnés en plein désert au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie, avec le soutien financier de l'Union européenne en plus. Comme on le sait, l'Union européenne a conclu des accords avec ces pays-là, des accords qui prévoient notamment des financements européens pour renforcer leur capacité à freiner l'immigration vers l'Europe. Et l'enquête décrit donc, et je cite, « un système de déplacement de masse qui fonctionne grâce à l'argent, les véhicules, l'équipement, le renseignement et les forces de sécurité fournies par l'Union européenne et les pays européens. » Fin de la citation. Lighthouse Reports a aussi s'est basé en fait entre autres sur des entrevues avec plus de 50 migrants venus de pays d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique de l'Ouest, victimes de ces agissements-là en Tunisie, au Maroc et en Mauritanie, et dit donc avoir identifié le caractère systématique et raciste de ces pratiques-là. Il y a certains migrants qui sont amenés vers des zones frontalières où ils sont ensuite vendus par les autorités à des trafiquants d'êtres humains et à des gangs qui les torturent contre une rançon. En juillet de l'année passée, des journalistes de l'AFP avaient déjà interviewé eux aussi des migrants à bout de force errant dans le désert à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Ils avaient été abandonnés là par les forces de sécurité tunisiennes, selon les témoignages de de ces migrants et de ceux de gardes frontières libyens. Alors, je pense que ça met bien la table pour tes sujets, Simon.
Oui, je parlerai pas seulement de migrants, c'est pas seulement que les personnes migrantes qui souffrent de mauvais traitements, vous allez voir. Donc, en premier, je commence avec climat xénophobe anti-noir, fausses nouvelles, rumeurs sur les réseaux sociaux, campagne de dénigrement qui vise plus spécifiquement les étudiants internationaux subsahariens. Je ne parle pas de la Tunisie, je parle de la Turquie, donc on est dans une autre région. Donc, les 5000 étudiants internationaux africains... subissent toutes sortes de... C'est un peu comme de la science-fiction, quasiment. Là. Ouais. C'est vraiment, on est dans le 2.0, dans les réseaux sociaux, des campagnes de salissage.
De dénigrement, ouais.
De dénigrement, mais qui ont toutes sortes de conséquences vraiment dramatiques pour les étudiants.
Ouais.
Ça aurait pu se passer en Tunisie, c'est un peu le même principe. Ça se passe donc en Turquie, à Karabuk, petite ville dans le nord du pays. Climat toxique. Il y a même une étudiante gabonaise nommée Dina qui avait été tuée l'année passée. Et depuis ce temps-là, l'ambassadeur du Gabon demande au gouvernement turc de prendre un peu plus au sérieux l'enquête sur la mort de Dina Ibuanga. Dans les dernières semaines, ce sont des prétendus étudiants turcs, donc des supposés nationaux, mais on est sur les réseaux sociaux, alors on n'est jamais vraiment sûr de l'identité des gens ou de l'origine des messages. Une campagne en ligne à grande échelle qui vise les étudiants africains et noirs, mais surtout les étudiantes africaines, qui, malgré les démentis des autorités sanitaires, auraient sciemment et massivement contaminé les autres étudiants avec des ITSS, notamment le VIH, même si les étudiants étrangers sont soumis à des évaluations médicales serrées. Campagne qui manque pas d'associer ces étudiantes non seulement aux maladies, mais par ricochet à la criminalité, à la drogue, à la prostitution. Des rumeurs non fondées qui se diffusent à vitesse grand V et qui sont par la suite presque impossibles à défaire et qui sont exprimées sur un ton très haineux, accompagné d'appels au renvoi ou à annuler les bourses d'études. Évidemment que les éditorialistes locaux populistes qui embarquent là-dedans, puis un genre de climat comme au Québec. Là.
Il doit y avoir, oui, c'est ça, j'imagine que des Mathieu Bock-Côté turcs et autres de
ça.
Ce genre-là.
je les vois, là,
tous les pays ont ça, Mathieu Bock-Côté.
Oui, c'est une infection. Les étudiants étrangers représentent une manne financière pour les coffres de l'État turc, qui a donc interpellé 8 personnes soupçonnées d'être à l'origine de ces campagnes de diffamation. Mais comme je disais, on est dans FB, X, Instagram et compagnie, alors c'est des centaines et des milliers de personnes qui, tous les jours, commentent, rajoutent une couche de violence et de désinformation, partagent à tous leurs contacts. Donc, ce ne sera pas évident à colmater ce torrent de haine anti-noir et surtout anti-femme noire qui a dépassé déjà les frontières de la ville et de la province de Karabuk. Ça se propage à travers la Turquie complète. Évidemment, les directions de ces GAFAM dans la Silicon Valley qui servent de relais à cette propagande raciste continuent d'engranger les milliards sans être inquiétés.
Mathieu, tu voulais peut-être ajouter quelque chose?
Je me demandais si le gouvernement turc était relié à ça ou...
Il n'y a pas de preuve qu'il l'est parce que devant...
Donc c'est quoi l'intérêt? C'est ça que j'essaie de voir.
Ben, écoute, tu poses vraiment de très bonnes questions, Mathieu, mais parce que, non, le gouvernement turc veut ses étudiants parce que, comme je disais, ça représente des entrées d'argent intéressantes. Donc, c'est des mouvements racistes populaires, je présume, ou des partis d'opposition.
Des jaloux.
Oui, c'est ça, des jaloux, comme dirait... Qui est ça, donc?
Bob Gratton.
Oui, merci, c'est ça.
Jaloux des peureux.
Donc, parlant de Bob Gratton, je vous parle maintenant de Giorgia Meloni. qui n'est pas allée voir pour une cinquième fois en 2024 son petit ami Saïed en Tunisie. Elle lui a faussé compagnie pour aller visiter à Tripoli son homologue libyen, le premier ministre Abdelhamid Dbeiba, pour le féliciter sans doute pour le beau travail de son pays dans l'esclavage et le trafic humain. Je blague à peine. C'est à peu près le même mode d'opération qu'avec la Tunisie ou comme pour les relations bilatérales entre Espagne et Maroc. On cherche à créer ou financer le maximum de programmes de rétention des migrants, moyennant évidemment des sommes importantes, mais de plus en plus la tendance, c'est qu'on enveloppe tout ça dans un assortiment de mesures à saveur socio-économico-environnementale, pas juste du greenwashing, mais du washing de toutes les couleurs. Des ententes en santé, en éducation, sur l'énergie, la coopération, alouette. N'empêche, l'entente entre Rome et Tripoli sur les gardes-côtes libyens qui sont accusés par toutes les ONG des pires exactions envers les migrants en mer autant que sur le sol libyen. Cette entente dans laquelle l'Union européenne, t'en parlais tantôt, est un partenaire important. Elle a non seulement été renouvelée il y a environ 2 semaines par le Parlement italien, mais elle a été bonifiée, et pas juste avec l'inflation.
Ah, à chaque fois qu'il y a renouvelle, il y a rebonifié.
Il y a rebonifié, mais pas juste, c'est ça, de 3-4%, mais non. C'est parfois des milliards de plus. Ouais, peut-être pas des milliards, mais en tout cas, vous comprenez. Parlant du bilan de la Libye sur les droits humains, 200 personnes migrantes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, ont été libérées début mai d'une prison clandestine où ils et elles étaient détenus depuis un an dans des conditions abjectes, subissant de la torture, des violences sexuelles. On demandait en plus à leurs familles des rançons astronomiques pour les libérer. On ne sait pas combien exactement il y en a de ces prisons clandestines dans le pays. La plupart sont connues. Et les autorités libyennes occasionnellement décident de fermer telle installation. Et bien sûr, elles ne manquent pas de faire tout un show avec ça pour montrer, voyez, on agit. Celle dont je parle maintenant, qui vient tout juste d'être fermée, les autorités ont publié plusieurs photos et vidéos spectaculaires, dont la démolition du bâtiment qui abritait cette prison de nuit. Démolition de nuit, là, c'est vraiment une vidéo, avec de la grosse machinerie. Bref, impossible après ça de dire que le gouvernement libyen ne prend pas la question du trafic humain au sérieux, n'est-ce pas? Le plus triste, c'est que les migrants « libérés » entre guillemets ont été immédiatement transférés dans des prisons officielles où les ONG déplorent exactement les mêmes sévices en l'endroit des migrants que dans les prisons clandestines.
Ah ouais, non.
Donc, grosse amélioration. Tunisie, j'y arrive enfin, je finis
bonnet
avec
blanc,
ça.
Bonnet blanc, bonnet.
Oui, bonnet, ben c'est la nuit, fait qu'on ne sait pas. Donc, Tunisie, d'abord, un chiffre assez terrifiant. Durant les 4 premiers mois de 2024, ont été interceptés en mer par les gardes-côtes tunisiens, pas moins de 21 500 migrants. Même période en 2023, c'était 17 500, dont une augmentation de 20 %. Et avec le climat anti-noir qu'on qualifie souvent de délétère dans les médias spécialisés, on peut affirmer que les chiffres ne vont pas baisser à court ou moyen terme.
Ah oui, c'est comme je disais tantôt, c'est ça.
Non, c'est un cercle sans fin,
un cercle vicieux,
oh,
ouais, non, c'est ça.
Question d'intoxiquer encore plus le climat ambiant, le gouvernement très xénophobe de Kais Saïd a décidé d'attaquer de front les ONG qui défendent les migrants, qui sont selon lui des éléments déstabilisateur à la solde d'intérêts étrangers. Donc, on entre dans une nouvelle phase de sa psychose paranoïaque. Il a fait détenir deux femmes, Shérifa Riahi, ancienne directrice de Terre d'Asile Tunisie, et Saadia Mosba, présidente de l'association antiraciste Nemti. Kais Saïd poursuit dans les déclarations fracassantes. Non seulement il qualifie les employés qui travaillent dans ces ONG avec ces deux femmes-là de traîtres et de mercenaires, mercenaires, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce mot-là. En plus, il les accuse de blanchiment d'argent. Donc, c'est ce qui permettra d'ouvrir des procès, les fausses accusations de blanchiment d'argent. Donc, il y a des procès farces qui vont s'ouvrir bientôt. Les deux femmes dont je parlais vont devoir faire face à la justice tunisienne avec leurs collègues et certains journalistes en même temps qui ont aussi été arrêtés dans le cadre de ces premières rafles, qui sont sûrement pas les dernières et dont l'objectif est très clair. Détruire complètement tout l'écosystème d'organisations, sympathisants, bénévoles inclus, qui ne sont pas d'accord avec la posture du gouvernement tunisien sur la question migratoire. Un billet très complet et très épeurant de Human Rights Watch, dont le titre est « Tunisie, la répression de la société civile s'intensifie », qu'on peut lire dans le site web de Human Rights Watch, hrw.org.
Ben merci Simon, on va te retrouver un peu plus tard pour d'autres actualités, mais d'ici cette fois-là.
Québec, Canada, immigration.
C'est
ouais.
ça. Et pendant, pour l'instant, on s'en va en musique avec Anaknid et la pièce Warrior Woman. Oui, alors c'était l'artiste Ojikri Anaknid avec la pièce Warrior Woman, qui est tirée de son dernier album intitulé Freak of Nature, paru en novembre dernier. Avis aux intéressés, elle est en spectacle demain soir, 31 mai, au cabaret La Basoche à Gatineau.
Oh, à La Basoche.
Ben, t'as du monde de Gatineau qui nous écoute. Écoute, on est sur les internets.
Partout dans le monde.
Alors, j'en profite aussi pour vous faire une suggestion en lien avec les questions autochtones. Demain également, 31 mai, un événement sur l'itinérance autochtone à Montréal, organisé par le Cercle des Premières Nations de l'UQAM et le Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones, en collaboration avec le groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations autochtones contemporaines. Pourquoi cet événement-là a lieu maintenant?
Oui.
Parce que les audiences publiques du coroner sur le décès de Raphaël André commencent incessamment.
C'est vrai.
Alors, petit rappel, le 17 janvier 2021, Raphaël André, originaire de Matimekouche-Lac-John, a été retrouvé mort de froid dans une toilette chimique à quelques mètres d'un refuge fermé en raison de la COVID-19. C'était dans le quartier Milton Park.
À Montréal.
Cette tragédie-là a soudainement rappelé l'importance de ce que plusieurs nommaient déjà une crise humanitaire au cœur de la ville. D'après des études récentes, les personnes autochtones représentent approximativement 12% de la population en situation d'itinérance visible à Montréal, alors qu'ils ne constituent que 0,6% de la population totale de la ville. Et on peut estimer que les membres de la communauté inuite représentent entre 40 et 45% de la population autochtone en situation d'itinérance chronique à Montréal. Donc, les causes de cette situation-là sont multiples et complexes, évidemment. Le colonialisme, le système de protection de l'enfance, la précarité des logements, le manque de ressources dans les organismes autochtones, le racisme systémique, etc. Donc, l'événement commence à 14 heures avec une table ronde de chercheurs dont le sujet principal va être le rapport de nos yeux aux vôtres qui concerne l'itinérance autochtone à Montréal qui a été produit récemment par le réseau de la communauté autochtone de Montréal. Ensuite, à 16 heures, il va y avoir des présentations des organismes qui œuvrent en itinérance à Montréal, divers organismes. Il y a à 17h15, il y a un buffet et à 18h, il y a une table ronde de diverses personnalités, dont Jean-Charles Pietachaud, qui est chef de Kwanichit. C'est au pavillon GIA de Sèvres de l'UQAM, au 320 rue Sainte-Catherine-Est, local DS1950 au premier étage. C'est ouvert à tout le monde et l'entrée est libre. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller visiter le site cpn.ucam.ca. Alors, voilà, Mathieu, la suite avec toi.
C'est demain.
Demain 31. Oui, c'est ça. À partir, donc, comme je vous disais, là, de 14h jusqu'à le dernier réveil, il y a divers panels et ça se termine avec une table ronde à 18h. Donc, voilà.
Parfait. Ben moi, je vais parler, Marie-Ève, d'actualité autochtone un peu partout au Canada, beaucoup reliée à l'environnement et au territoire. Un petit suivi sur ce que Simon nous avait parlé il y a quelques semaines. Le gouvernement fédéral forcera finalement l'industrie pétrochimique de Sarnia à contrôler ses émissions de benzène. Le ministère de l'Environnement a publié un arrêté d'urgence la semaine passée. Celui-ci imposera des normes plus strictes sur les émissions de ce composé organique volatile considéré comme cancérigène. Le ministère de l'Environnement confirme aussi travailler à imposer un nouveau règlement à toute l'industrie pétrochimique au Canada afin de réduire davantage la pollution atmosphérique provenant de certaines sources, certaines régions finalement où il y a des industries. Depuis des mois, la Première Nation de Argivanang, en banlieue de Sarnia, affirme que la concentration de benzène dans l'air est beaucoup plus élevée que les normes provinciales. Le 2 mai, le gouvernement provincial avait déjà forcé la fermeture de l'usine Ineos Styrolution qui fabrique des produits plastiques. L'usine se trouve de l'autre côté de la rue du centre de ressources de la Première Nation. Donc, il avait fait des tests eux-mêmes puis il avait vu qu'il y avait vraiment un problème au niveau des concentrations. Donc, une bonne nouvelle quand même comme suivi. Sinon, 8 Premières Nations situées autour du lac Winnipeg poursuivent les gouvernements fédéral et provincial ainsi que la ville en justice. Ils estiment que leurs terres sont polluées à cause de déversements qui se sont produits entre janvier 2004 et avril 2024.
Un autre cas de racisme environnemental.
J'y arrive. Soit environ 522 millions de litres d'eau usée en 20 ans qui ont été déversés dans la rivière Rouge qui se jette dans le lac, évidemment, Winnipeg. Les dirigeants de ces communautés demandent un dédommagement financier à hauteur de 500 millions de dollars pour chaque palier de gouvernement. Le racisme environnemental existe, dénonce E.G. Fontaine. Ouais. E.G. Fontaine, le chef de la nation Saguenay. Saguenay, en vous. Voilà. Le fait que la ville de Winnipeg n'a pas communiqué rapidement avec les Premières Nations concernées témoigne d'un mépris flagrant pour les effets potentiels de la fuite d'eau usée brute sur la santé et l'environnement, indique Cathy Merrick, la grande chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba. Le lac Winnipeg est le 10e plus grand lac d'eau douce au monde.
Ah oui, rien je savais de moins. Pas ça.
Ben oui, mesdames et messieurs. Dans la plainte déposée devant la cour, les plaignants dénoncent une atteinte à différents traités numérotés comme les 1, 3 et 5. L'impact de la pollution sur la faune et la flore aquatique est très important, affirment les plaignants. Cela comprend la prolifération d'algues, aussi d'algues bleues toxiques causées par un excès de nutriments dans l'eau et d'autres polluants toxiques qui ont tué et réduit le nombre de poissons et d'autres formes de vie aquatique dans le lac Winnipeg.
Oui, parce que ça fait des lacs moins oxygénés, entre autres.
Exactement.
Ces algues bleues.
Exactement.
Bleues,
bleu toxique, tout à fait. Sinon, ben on était au Manitoba, là, on était en Ontario au départ, on s'en va au Québec. Le conseil de bande d'Unamen Chipou et Hydro-Québec ont signé une entente de 32 millions de dollars en dédommagement pour la construction de la centrale du lac Robertson. La communauté Innu considérait n'avoir jamais eu de redevance depuis sa mise en service en 1995. C'est situé sur la côte nord, évidemment, communauté Innu au Québec, dans la haute côte nord, là,
ouais.
C'est-à-dire assez loin, là.
Ouais.
Jusqu'à dans le coin un
dans
peu
le coin de Blanc-Sablon.
Un peu avant Blanc-Sablon, exactement. Okay. L'entente dont l'argent sera versé sur une période de 23 ans est décrite par les deux parties comme un règlement des torts du passé. Le chef d'Unamen Chipou, Raymond Bellefleur, dit vouloir financer la construction de logements pour aînés et mettre sur pied un fonds d'urgence. Le ministre, ton meilleur, là, Yann Lafrenière, là.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler, quand même.
Il était bien fier de l'entente.
Ah,
il avance, puis là, c'est l'image de l'autre entente qu'il y a eu avec Pessamit il n'y a pas longtemps. Mais il s'entend, on dirait, juste avec les Innus ces temps-ci. C'est assez particulier. Changement de nation, toujours au Québec. Le gouvernement du Canada, celui-là, et la nation Huron-Wendat sont arrivés à une entente concernant la revendication relative à la réserve de Roquemont, illégalement cédée. Ottawa s'engage à remettre une indemnité de 149 millions de dollars à la nation, en plus d'offrir la possibilité d'acquérir jusqu'à 9600 acres, c'est quand même environ 40 km carrés.
C'est où, ça?
J'arrive. Okay. Donc, acquérir jusqu'à 30 km carrés de terres de gré à gré, c'est-à-dire de personnes disposées à vendre leur propriété. Et ensuite, qu'on peut demander que ces terres soient mises de côté en tant que réserve. Mais il faut qu'il y ait des négociations avec les gens qui habitent dans cette...
Oui, non, c'est ça, c'est pas fait. Là.
Dans cette réserve. La réserve de Roquemont se trouve dans l'actuelle MRC de Portneuf, à 80 km au nord de Québec,
oui.
Et aussi au nord de Wendake. C'est pas contigu au territoire Wendat actuel. Cette terre a été illégalement cédée en 1904 et vendue pour 7 500 $ à l'époque. Avec la perte de ces terres, les membres de la nation Huron-Wendat ont perdu des possibilités économiques liées à la foresterie, à la chasse et à la pêche, ainsi qu'à un espace pour pratiquer des activités traditionnelles sur les terres, mais ils comptent évidemment développer donc ces terres. Mais c'est sûr que les histoires qu'il y a des gens qui habitent là, puis il faut que les gens partent d'eux-mêmes, ça peut être compliqué et long.
Ouais, parce que j'imagine que les autres vont considérer qu'ils ont des droits acquis quand
exactement.
Même.
Exactement. Ils ont acheté le terrain à un moment donné, c'est
ben,
ça.
Ben, c'est ça, là.
Fait que c'était mon cours sur voile canadien du Canada, certaines actualités autochtones reliées à l'environnement et au territoire.
Ben, merci Mathieu.
Ça fait plaisir.
On va continuer avec quelques petites notes de musique, puis on te retrouve de toute façon là, de l'autre côté.
OK.
Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca avec les apatrides anonymes. On passe des actualités autochtones à d'autres actualités internationales. Ben, qui concerne quand même aussi le Canada, vous allez voir, c'est que beaucoup de ressortissants canadiens se trouvent encore aujourd'hui en Syrie, soit dans des camps, généralement là pour les femmes et les enfants, ou dans des prisons, dans les cas le plus fréquent pour les hommes. Et selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, environ 30 000 personnes originaires de plus de 60 pays, pour la plupart des enfants, sont toujours détenues dans les camps de personnes déplacées d'Al-Hol et de Roj en Syrie. C'est dans le nord, si je ne m'abuse.
Oui.
Les rapatriements continuent aussi, quand même. Le dernier en date au Canada a été mené conjointement avec les États-Unis au début mai, qui ont rapatrié là, 11 de leurs citoyens en plus de ressortissants des Pays-Bas, de la Finlande et du Canada, dont faisaient partie 6 enfants canadiens. La mère de ces enfants-là, elle, est restée en Syrie parce que, selon l'avocat canadien Lawrence Greenspan, cité par CBC News, ben, elle n'aurait pas été autorisée à revenir au Canada après avoir échoué une évaluation de sécurité. Selon l'avocat, toujours, le gouvernement canadien aurait décidé de pas rapatrier la femme parce que elle adhérait, et je cite, à des croyances idéologiques extrêmes et donc, selon le gouvernement, pouvait représenter un risque pour le public. Mais l'avocat Greenspan a ajouté que le gouvernement avait fourni aucun détail sur la manière dont il était parvenu à cette conclusion-là. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Qu'est-ce qui arrive aux enfants qui se retrouvent dans cette situation-là?
Ben oui, qu'est-ce qui arrive?
Eh bien, à leur arrivée à leur aéroport, ils sont pris en charge par la clinique de polarisation. C'est le nom de cette...
De dépolarisation ou de polarisation?
Polarisation.
OK.
Qui relève du ministère de la Santé et des Services sociaux et qui est constitué de travailleurs sociaux, de psychologues, de psychiatres, de pédopsychiatres et d'autres experts là sur la question de ce qu'on nomme apparemment la polarisation sociale. J'ai jamais entendu ce terme-là dans ce contexte-là.
Mm-hmm.
Et donc, les enfants sont évidemment ensuite placés en famille d'accueil. Affaires mondiales Canada a beau assurer fournir aux enfants les soins nécessaires pour commencer une nouvelle vie au Canada et travailler avec là, les autorités provinciales canadiennes, les ONG, des services sociaux pour faciliter l'accueil, le logement et d'autres services de soutien, reste qu'il y a quand même lieu de se demander si le fait de séparer des enfants de leur mère est vraiment dans leur intérêt, surtout lorsqu'ils reviennent de situations très difficiles et souvent très traumatisantes. D'ailleurs, le groupe Families Against Violent Extremists milite pour le retour de tous les Canadiens et Canadiennes détenus dans le nord-est de la Syrie, incluant les enfants dont la mère est pas canadienne, mais dont le père, lui, l'est, mais qui est aussi considéré comme combattant ou sympathisant du groupe État islamique.
Mm-hmm.
Alors, voilà pour les rapatriements de ressortissants et d'enfants canadien de la Syrie.
Mise à jour, parce que ça traîne depuis des années. Hein.
C'est oui, non, c'est dossier, ça date d'il y a longtemps, puis je veux dire, ils reviennent, les rapatriements se font
au compte-gouttes,
exactement.
Compte-goutte. Oh,
alors toi, Mathieu...
Je pense qu'on est un des derniers pays qui n'a pas rapatrié ses ressortissants. Le
Ah non, ben comme je disais tantôt, il en reste encore. Là, il y a 30 000 personnes encore originaires de plus de 60 pays.
Ah, quand même, OK.
Qui sont,
Oui, il y a des pays qui ont été plus efficaces que d'autres, entre guillemets, disons. Et d'autres qui font rien.
Oui.
Ben, on s'en va en Afrique, Marie-Ève, pour l'instant. On va aller en Asie après, si on peut. Oui, en Asie, tout à fait. Guinée, c'est un bloc Sénégal, ça se passe au Sénégal, mais je vais parler de la Guinée quand même. Début mai, 26 personnes parties de Guinée sont mortes dans le naufrage de leur embarcation près des côtes sénégalaises. Le premier ministre guinéen a déploré une hémorragie pour le pays face aux milliers de ressortissants guinéens qui empruntent chaque année les routes migratoires vers l'Europe.
Principalement les Canaries, vers les Canaries, je pense.
Oui, mais tu vas voir qu'il y en a ailleurs aussi. Le premier ministre s'appelle Amadou Ouri Ba, a également évoqué les milliers de Guinéens qui attendent dans différents pays d'être rapatriés après avoir tenté de partir vers l'Europe. Nous avons aujourd'hui près de 3000 de nos jeunes qui attendent d'être rapatriés du côté du Niger, 1200 du côté de l'Algérie, 400 du côté de l'Égypte, des milliers qui sont dans les camps en Italie, sans compter ceux qui sont aux États-Unis, dont je n'ai pas le nombre. Là, je le citais, le ministre, le premier ministre.
Oui, Monsieur Ba.
Monsieur Ba, exactement, BAH. Chaque année, des milliers de Guinéens s'engagent sur les routes migratoires menant à l'Europe. En 2023, sur les 157 000 personnes qui sont débarquées en Italie, 18 000 étaient guinéennes. C'est la première nation représentée par les migrants arrivés en Italie, devant la Tunisie et la Côte d'Ivoire.
Okay.
Fait que c'est du sérieux, là. L'instabilité politique qui règne dans le pays, conjuguée à une situation économique moribonde, constitue la cause de cet exode, principalement.
Ouais.
Je continue, mais plus vers le Sénégal. La Marine nationale sénégalaise a stoppé plus de 500 personnes qui souhaitaient rejoindre les Canaries à bord de pirogues durant les deux premières semaines du mois de mai. Les occupants, parmi lesquels se trouvaient des femmes et des enfants, étaient originaires du Sénégal et des pays voisins. L'une des pirogues provenait même de Gambie.
OK.
Dakar avait déjà intercepté 260 migrants entre décembre et avril. Avant cela, un pic de départ avait été observé avant l'hiver en novembre 2023, avec un millier de tentatives de départ dans le mois de novembre, donc 2023. En février, plus de 20 corps avaient été récupérés sur une plage dans la région de Saint-Louis, toujours au Sénégal, après le naufrage d'une pirogue. Selon les témoignages des rescapés, près de 300 personnes avaient pris place à bord de la même pirogue. Depuis la guerre en Ukraine, l'inflation plombe l'économie du Sénégal et le prix des matières premières s'envole. Par ailleurs, les ressources halieutiques sont accaparées par la pêche industrielle et la raréfaction des poissons s'aggrave avec le changement climatique. Au Sénégal, beaucoup de familles dépendent de la pêche, donc c'est un des facteurs. Depuis le début de l'année, près de 16 000 exilés au total sont arrivés aux Canaries, soit une augmentation de près de 370% par rapport à la même période en 2023. Là, je voulais faire une stat sur les Canaries, tant qu'à faire. Boubacar Seyé, le président de l'ONG Horizons sans frontières, déclare qu'il y a urgence à tenir une conférence africaine sur la gestion des flux migratoires.
Ah oui, non, c'est sûr.
Ouais. On s'en va ailleurs complètement, au Népal, Marie-Ève. Oh. Un article qui a attiré mon attention sur le site de Alter Québec, qui s'appelle « Naître discriminé au Népal, la lutte des Dalits ou Dalits pour abolir le système de caste ». Tout au long du Forum social mondial 2024, qui a eu lieu à Katmandou là, au mois de mars.
On n'a pas entendu parler, mais bien, hein?
Pas bien, bien. Moi, je le vois sur les infolettes altermondialistes, là, mais sinon, non, c'est ça. Fait que tout au long du Forum, il y avait des banderoles « Dalit Lives Matter » qui est exhibé parce que c'était au Népal, ça se passait. Alors que la réalité des Dalits au Népal est peu médiatisée, la communauté se mobilise pour atteindre l'égalité de droits et de traitement avec les autres castes. Le Népal est encore organisé selon le système de castes officieusement, je dirais, qui s'est implanté dans la région il y a plus de 1500 ans. Au Népal, il existe plus de 125 castes, puis il y a des sous-castes là-dedans, c'est vraiment joyeux. Bien qu'en 1964, ce système est aboli, la discrimination intercaste perdure. Deux ans après la grève générale de 2006, le Népal a mis fin officiellement à l'État hindou, est devenu un pays laïque et a réaboli les castes. Malgré ça, dans les deux dernières années, plus de 200 Dalits ont été assassinés à cause de leur origine sociale dans des histoires d'honneur et de conflits. Les Dalits, anciennement appelés les intouchables, sont l'ensemble des sous-castes discriminés par l'ancien système. Au Népal, c'est 13% de la population. C'est une communauté transnationale qui se retrouve aussi en Inde, au Pakistan, au Sri Lanka et au Bangladesh. En plus de la discrimination structurelle, ils font face aux injustices quotidiennes. Un militaire témoigne, j'ouvre les guillemets, « Je ne peux pas aller dans les maisons des castes supérieures dans mon village. Je ne peux pas accéder à des points d'eau. Je ne peux pas manger collectivement avec les autres dans mon village. » Donc, c'est vraiment un niveau... C'est moins pire en ville actuellement, mais c'est vraiment dans les campagnes que c'est un problème. Donc, voilà. Fait qu'un article d'Alter Québec là, sur les Dalits, je pense qu'on dit comme ça. Et dernier sujet, Marie-Ève, j'y vais avec le Myanmar.
Un lieu tout aussi égalitaire.
Oui, tout aussi réjouissant. Le titre d'un article de Human Rights Watch, j'avais pas consulté Simon, on est dans Human Rights Watch aujourd'hui, qui s'appelle « Forcés de combattre dans le camp de leurs oppresseurs ». Vous allez voir, c'est joyeux. L'audace avec laquelle l'armée du Myanmar traite la minorité Rohingya est presque impossible à comprendre. Pendant des années, les militaires ont commis des crimes contre l'humanité et des actes de génocide à leur encontre, et maintenant, ils les forcent à collaborer avec eux, à se battre à leur côté. Depuis février, l'armée du Myanmar a enlevé et recruté de force plus d'un millier d'hommes et de garçons Rohingya dans l'état de Rakhine. Alors que plus de 730 000 Rohingyas ont fui le pays, quelques 630 000 vivent toujours au Myanmar dans un système d'apartheid et de persécution. Parmi ces personnes, on compte environ 150 000 personnes détenues dans des camps à ciel ouvert. Depuis le coup d'État militaire de 2021, la junte leur impose de sévères restrictions de mouvement et bloque l'accès humanitaire. La junte fonde ses mesures sur une loi relative à la conscription militaire qui ne s'applique qu'aux citoyens du Myanmar, alors que les Rohingyas se sont vus refuser le droit à la citoyenneté depuis longtemps, mais ils recrutent de force quand même pour l'armée.
Ah ouais.
C'est pas pire, hein? Ce qui arrive aux hommes et aux garçons après leur enrôlement forcé dans l'armée n'est probablement pas une surprise. Ils sont envoyés dans des camps d'entraînement abusifs pendant une courte période, puis beaucoup d'entre eux sont envoyés sur le front dans la lutte de la junte contre le groupe rebelle de l'Arakan Army. Puis il y a plein d'autres groupes rebelles actuellement au Myanmar. Un certain nombre de ces recrues forcées ont déjà été tués. Certains de leurs corps n'ont même pas été rendus à leur famille. D'autres ont été gravement blessés. Et on ne sait pas où se trouvent de nombreux autres hommes et garçons qui ont été recrutés de force par l'armée. Fait qu'ils sont en prison ou à l'armée, puis ils se font tuer au front, ou sont en exil. Donc, au niveau des Rohingyas, le seul espoir peut-être, c'est que le tiers du territoire actuellement est contrôlé par des milices rebelles, que l'armée perd du terrain. Peut-être qu'il y aura un changement un jour, mais pour l'instant, le Myanmar, c'est... le blackout.
Ouais, non, c'est ça, c'est comme une autre planète, là. Ouais. Ou en tout cas, ou un régime de non-droit. OK, ben merci, Mathieu. On t'entendra plus beaucoup aujourd'hui, à moins que tu fasses des petites interventions.
Je vais faire des bruits dans le micro quand je vais être à la technique.
C'est bon. Alors, on s'en va en musique, puis je vais vous présenter ce que c'est au retour. Écoutait le trio montréalais Big Brave et la pièce Quotidian Solemnity qui est tirée de leur album A Chaos of Flowers, un album qui est sorti tout récemment là, en avril et qui figure au palmarès, là j'ai oublié de noter la position, mais qui figure au palmarès de Choc. J'ai pas vu non plus de Mathieu, oui, je pense oui. que tu peux me dire ça, toi.
Oui, ils sont en 16e position du palmarès local.
Oh, quand même!
Ils jouent le 2 août prochain au bar Le Ritz PDB à Montréal.
Hey, c'était là qu'on les avait vus en plus, Mathieu,
oui, il y a quelques années. Ben oui,
ouais, ouais, il y a deux, trois ans. OK. Alors voilà, c'était, comme je le disais, Big Brave avec la pièce Quotidian Solemnity. Alors, maintenant, je vous parle de deux cas de profilage racial de la part de deux corps policiers différents et dont les victimes sont, croyez-le ou non, Des flics!
Oh!
Bon, c'est pas plus drôle, parce que c'est pas drôle quand même d'être...
Ben, un peu.
D'abord, une policière noire de la GRC affirme avoir fait l'objet d'une intervention discriminatoire de la part de l'agent du SPVM, Stéphane Chamberlain, en octobre 2023, et lui réclame, ainsi qu'au SPVM, 110 200 $. Je vous passe là tous les détails de l'intervention, parce que c'était un peu compliqué. Mais Aldrine Jules, policière depuis 14 ans dans la GRC, dit avoir subi une clé de bras et des violences physiques injustifiées, alors qu'elle était même pas en état d'arrestation. À un certain point, elle aurait interpellé un autre policier arrivé sur les lieux qui lui aurait répondu avoir rien vu, qu'il s'agissait que d'une, et je cite, « chicane de cour d'école ». Selon elle, le policier Chamberlain a fait preuve d'un traitement différencié envers elle en raison de sa race ou de sa couleur. Il aurait fait preuve d'abus d'autorité en ayant recours à une force excessive, inutile et gratuite. La policière a reçu un diagnostic de syndrome de choc post-traumatique suite à cet événement-là et est en arrêt de travail complet depuis novembre à cause de ces événements. Le second cas est le second cas est celui d'un policier noir du SPVM cette fois-ci qui poursuit quatre agents de la SQ pour profilage racial et réclame plus de 100 000 $. La victime de 43 ans qui travaille au SPVM depuis 15 ans et dont l'identité est protégée par une ordonnance de la Cour par crainte de représailles allègue que les agents de la SQ l'ont injustement interpellée et poussée au sol après l'avoir vue au volant d'un véhicule luxueux en septembre 2021, donc Driving While Black. Les événements se sont déroulés à Joliette alors que l'homme venait de garer sa voiture dans l'entrée privée de la résidence de sa sœur. Alors qu'il se tient à l'extérieur, le véhicule de la SQ, qui l'avait suivi sur une courte distance, allume ses gyrophares. L'homme, lui, assure avoir commis aucune infraction durant la courte distance parcourue où les policiers l'ont observé. Et là, il a beau brandir son badge pour signaler son appartenance aux forces de l'ordre, rien n'y fait. L'agent de la SQ lui demande de s'identifier. Ce que l'homme refuse de faire, puisque, à son avis, ben, il s'agit d'une demande illégale. Donc là, à partir de ce moment-là, là aussi, la situation dégénère. Apparemment, les agents de la SQ avaient reçu cette journée-là le mandat de vérifier les véhicules provenant de l'extérieur de la ville, et je cite, « en raison d'une manifestation anti-masque prévue et annoncée par un homme noir
oh. ».
Je vous rappelle qu'on était en 2021. Les agents répètent à de nombreuses reprises qu'ils croient pas que l'homme soit réellement policier, qu'il n'agit pas comme une police et qu'il a un comportement bizarre.
Être un comportement non policier, c'est forcément bizarre.
Abasourdi, l'homme transmet les coordonnées du poste de quartier où il travaille à Montréal et invite les policiers à contacter son superviseur. Ces derniers s'exécutent, dénonçant le fait qu'il ait brandi son badge, puis quitte les lieux. Mais ça se termine pas là, cette histoire-là, parce que au mois de mai 2022, donc un an et six mois plus tard, mettons, le policier est informé qu'une plainte en discipline a été logée par les policiers de la SQ à son encontre parce qu'on lui reproche d'avoir montré son badge sans raison valable.
alors qu'il n'était pas en service.
Je ris, mais c'est vraiment pas drôle. Le policier, lui, il en est convaincu, évidemment. Il a été visé parce qu'il était un homme noir au volant d'une voiture de luxe. Depuis les événements, il est accaparé par un profond sentiment d'humiliation. Il souffre dans son milieu de travail. Il supporte plus d'entendre des commentaires désobligeants et racistes.
Ah ben.
Il a perdu foi en sa profession et s'interroge sur son avenir et son choix de carrière. Bon, ça fait un flic de moins, on s'en plaindra pas. Mais je termine quand même en citant son avocat. Ce dossier met en lumière le fait que peu importe le statut social d'un homme noir, qu'il soit avocat, juge ou policier, aucun n'est exempt d'être victime de profilage racial.
Très édifiant, Marie-Ève.
Surtout de la part de la police, oui, c'est ça.
Oui, parce que ce que je retiens du deuxième cas, c'est l'ordonnance de non-publication pour peur de représailles. Ça en dit quand même long sur la culture à l'interne.
De la SQ, oui.
Non, du SPVM.
Ben, lui, il vient du SPVM, mais les agents qui...
Oui, mais c'est toute la même chose, de toute façon.
Ouais, mais à SQ, en tout cas, je pense que ça joue raide aussi à SQ, mais bon. Je pense que c'est de même. C'est un corps policier, ça, c'est l'effet de groupe, là, genre bro, tu sais, puis tout le monde se protège.
Dude.
Alors, à toi, Simon?
Ben, oui, on reste dans les actualités locales, mais je commence avec le fameux programme spécial pour les réfugiés palestiniens.
Qui va très bien.
Petite incursion dans cette région-là, en passant. Oui, ça va très bien, vous allez voir. Programme mis en place par le fédéral en janvier dernier. On parlait même plus de ce programme-là depuis des semaines. Le ministre Mark Miller affirmait que peu de demandes avaient été formulées, que ça suscitait pas vraiment d'enthousiasme. Par contre, il y a des données qui ont récemment été dévoilées qui contredisent le ministre.
Tiens donc.
La presse canadienne a appris, suite à une demande d'accès à l'information, qu'en janvier et avril, plus de 7500 demandes ont été déposées et qu'une demande, c'est pas juste pour une seule personne, ça peut concerner une famille complète jusqu'à 10 personnes, selon les chiffres obtenus. Donc, selon mes calculs prudents, si je mets 4 personnes par demande, on peut estimer à 30 000 le nombre de Gazaouis qui attendent toujours une réponse du ministère de l'Immigration. Puisque jusqu'à maintenant, et c'est ma question quiz du jour, combien de visas ont été délivrés?
10?
Ah, t'es très pessimiste. C'est 179 quand même.
Ben, je peux...
Ça, c'est un chiffre du 29 avril, 4 mois après le lancement du programme. C'est peut-être légèrement plus aujourd'hui, là, on va dire 200. Juste pour rappel, le programme était le moins généreux possible, très restrictif, plafonné à 1000 visas, donc 1000 personnes bénéficiaires maximum. C'était des visas de séjour temporaire et tous les frais devaient être assumés par les proches qui parrainent à partir du Canada. Les exigences de sécurité étaient aussi jugées excessives, tout le monde étant plus ou moins par défaut considéré comme un terroriste. Et les exigences administratives aussi sont considérées comme exagérées. On demande plein de documents impossibles à regrouper dans le contexte actuel de
ruine totale
de destruction, c'est ça, de massacre.
Du territoire, oui.
Pas sûr que le ministère de la paperasse à Gaza y répond beaucoup, très rapidement au téléphone. Mm. L'une des exigences...
On ne sait jamais, peut-être qu'il répond plus rapidement que le ministère de l'Immigration du Canada, par exemple.
Oui, parce qu'on connaît certaines ratées ici, malgré qu'il n'y a pas de bombardement. L'une des exigences du gouvernement canadien, c'est que les candidats au programme spécial passent par le Caire pour toute une série de vérifications, donc traversent la frontière vers l'Égypte par le seul point de passage qui est à Rafah. Point de passage qui est contrôlé par Israël et qui est le plus souvent fermé dans une région qui est sous une pluie de bombes qui vise les civils actuellement, en plus de l'offensive terrestre. On se demande un peu à quoi pensent nos fonctionnaires du ministère de l'Immigration. On demande aux Gazaouis qu'un proche au Canada voudrait faire venir d'aller s'exposer directement à une mort presque certaine, puisque là où ça fait le plus rage actuellement, c'est à Rafah. D'ailleurs, beaucoup d'avocats qui gèrent les dossiers de demande de parrainage affirment qu'une proportion importante des candidats est déjà morte à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'on peut sans exagérer dire que ce programme est un échec complet, une farce sinistre et même une catastrophe humanitaire honteuse pour le Canada. Et je crois pas que ça va débloquer bientôt pour les 7500 demandes toujours en attente. Mark Miller vient d'augmenter à 5000 le nombre de visas qui pourraient être délivrés, ce qui change absolument rien au bloc. C'est un peu absurde. Ça change rien, tout est bloqué de toute façon, d'autant plus qu'Israël ne reconnaît pas le programme canadien et refuse de laisser sortir qui que ce soit, visa canadien en poche ou non. Et de toute façon, comme je le disais, les civils n'osent plus trop s'aventurer dans le coin vers ce passage à Rafah où il y a même eu récemment des tirs entre soldats israéliens et égyptiens. Mark Miller qualifie l'attitude d'Israël dans le cadre de ce programme spécial de décevante. On change complètement de sujet. On se dirige les mains de Marc. Alors, on se dirige vers un endroit normalement plus paisible, l'île du Prince-Édouard, dont on parle pas très souvent. Paisible, mais avec des enjeux importants. On retrouve les mêmes dossiers d'actualité que dans les autres provinces. Il y a justement des manifestations de travailleurs étrangers. Un campement devant le Parlement à Charlottetown qui dure depuis plusieurs semaines.
OK.
Oui, c'est très récent dans l'actualité. Des dizaines de travailleurs étrangers qui font une grève de la faim depuis quelques jours. Certains même en grève de la soif depuis mardi cette semaine. D'ailleurs, depuis hier, des soins médicaux doivent être donnés à certains grévistes de la soif surtout. Le premier ministre conservateur Prince-Édouardien, quel est son nom?
Je ne sais pas.
Il s'appelle
King.
King, il est vraiment dans l'Empire britannique.
Dennis
King s'est rendu au campement parler avec les manifestants, mais il est resté inflexible sur ses positions. Donc, je vous explique en gros, la principale revendication porte sur des changements apportés au PCP, le programme des candidats des provinces, qui est un programme fédéral dont les cibles sont déterminées par les provinces. Du jour au lendemain, Charlottetown a décidé de réduire de 25 % le nombre de travailleurs temporaires éligibles à la résidence permanente et d'abaisser drastiquement de 800 à 200 le nombre de travailleurs temporaires dans le secteur de la vente et des services, ce qui fait en sorte que des centaines de personnes ont appris subitement qu'au terme de leur visa, qui sont toujours d'une durée d'un an, ils et elles devront partir. Comme ça, sans préavis.
Et c'est justifié ça comment?
Ben parce que, ben un peu comme à Québec, là, il y a trop de pression sur les services publics. Mm. C'est tout le temps la même chose. Là. Bon. Puis on parle de crise du logement aussi quand c'est le temps de parler d'immigration temporaire ou permanente, là, comme quoi ce serait la faute de l'immigration. Mm-hmm. Exactement le même discours qu'à Québec. C'est une question de quelques mois et même de quelques semaines dans de nombreux cas pour les gens dont les visas expirent très bientôt. Ils devront être partis. L'une des avenues proposées au gouvernement pour dénouer l'impasse est d'exclure des changements au programme les personnes qui sont déjà sur l'île et de l'appliquer pour les personnes qui ne sont pas encore là ou les futurs immigrants temporaires. Ces personnes-là qui sont déjà sur l'île parfois sont déjà bien intégrées parce qu'elles sont là depuis des années, mais le gouvernement n'a pas l'intention pour l'instant de mettre en place des clauses grand-père. C'est un dossier vraiment qui est brûlant d'actualité, dont l'issue reste incertaine. On verra l'évolution dans les prochaines semaines. Parallèlement à ça, sans lien direct avec les grévistes de la faim, c'était programmé avant les manifestations à Charlottetown. Il y a un groupe de travail du Sénat canadien qui s'était penché sur le sort des travailleurs migrants à l'île du Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick, et il a publié son rapport la semaine passée. Pourquoi se pencher sur ces deux provinces en particulier? D'abord, il y a des groupes de pression qui le demandaient, qui jugent que ces deux provinces ont leurs particularités propres. Étant beaucoup moins denses et urbaines que la plupart des autres provinces, les abus peuvent se produire davantage en région qui est moins peuplée, plus loin des regards, plus loin des inspections potentielles et des témoins extérieurs. Il y a moins de communautés culturelles bien établies, d'où émergent normalement des ressources d'aide et des réseaux de solidarité.
Ouais, donc plus d'isolement aussi.
Plus d'isolement, moins d'accès aux services. On peut lire dans le rapport que les travailleurs étrangers au Canada, en général, subissent des abus plus pernicieux que dans les autres provinces. Mmh. Donc, ce sont les termes qui sont employés dans le rapport. On peut ajouter à ça, il n'y a à peu près pas d'accès au transport public, ce qui rend les travailleurs étrangers encore plus dépendants de leurs employeurs pour tout contact avec l'extérieur ou simplement pour se rendre à l'épicerie ou chez le médecin. Donc, la principale recommandation du rapport du Sénat est d'abolir les permis de travail fermés, on y revient toujours, et les remplacer par des permis liés non pas à un employeur exclusif, mais à un secteur d'activité ou à une région donnée. Parmi les autres recommandations, la multiplication des visites surprises d'inspection dans les exploitations agricoles, dans les usines de transformation de la viande et du poisson, et la création d'un poste de commissaire aux travailleurs migrants qui auraient le devoir de défendre leurs droits.
Okay.
De leur côté, les associations de défense des travailleurs étrangers continuent de militer pour l'octroi de la résidence permanente pour tout détenteur de permis de travail temporaire qui en fait la demande. Le gouvernement fédéral a 120 jours pour réagir à ce rapport-là, dans lequel est indiqué en introduction, je ne sais pas si c'est un scoop, que le fédéral prévoit déjà présenter un projet de réforme du programme des travailleurs étrangers temporaires fin 2024, début 2025, à suivre donc. Et pour qui veut lire le rapport complet, on le trouve sur sencanada.ca.
Pour Sénat, c'est
ouais,
ça?
Exactement. Le titre, c'est « Agissons maintenant, des solutions pour la main-d'œuvre temporaire immigrante du Canada ». Je termine très rapidement avec une autre suggestion de lecture, une lettre ouverte parue il y a deux semaines dans les médias, rédigée par Nina Gonzalez du Centre des travailleuses et des travailleurs immigrants, co-signée par 34 organisations. Le titre « La dignité des personnes migrantes est non négociable ». Toujours les mêmes revendications, mais expliquées sous un angle intéressant. On veut un programme fédéral de régularisation complet et inclusif et l'abolition des permis de travail fermés. Donc, à lire cette lettre ouverte de Nina Gonzalez.
Merci, Simon. Sur ce, quelques notes de la musique. Avant de conclure cette édition des Apatrides Anonymes, oui, parce que vous reconnaissez notre thème de clôture, une brève à propos de l'homme à la tronçonneuse, c'est-à-dire le président de l'Argentine, Javier Milei, qui a encore démontré être doté d'un grand sens de la diplomatie, alors qu'il était en Espagne pour un congrès organisé par le parti d'extrême droite espagnol Vox, auquel participait évidemment également Marine Le Pen. Président argentin a accusé Begoña Sanchez, l'épouse du premier ministre Pedro Sanchez, de corruption. Milei a tenu ses propos au terme d'une visite de 3 jours en Espagne, durant laquelle il n'a rencontré ni le roi Philippe VI, ni Pedro Sanchez, avec lequel il entretenait déjà des relations pour le moins glaciales, lui qui avait soutenu le rival de Milei, Sergio Massa, lors de l'élection présidentielle argentine. Alors, c'est ça. Milei fricote avec l'extrême droite espagnole, mais ne prend pas la peine de rencontrer ni le roi ni le premier ministre. Et puis, ben, les relations entre le premier ministre et Milei ne sont pas prêtes de se réchauffer puisque le gouvernement espagnol, en réaction à ses propos, a rappelé jusqu'à le nouvel ordre l'ambassadrice d'Espagne en Argentine, accusant Javier Milei d'avoir insulté l'Espagne.
L'homme à la tronçonneuse, il pourrait se l'échapper sur lui, la tronçonneuse?
Oui, il pourrait. Ailleurs que sur le pied, disons. Et toujours à propos de Javier Milei, je vous invite à aller lire le texte que Julie Châteauvert et Simon Tremblay-Pépin, qui sont en séjour de recherche en Argentine depuis janvier, ont publié sur Pivot, texte intitulé « Comment résister au gouvernement libertarien en Argentine ». Les deux auteurs se sont entretenus avec des militantes et militants et intellectuels argentins et argentines pour comprendre comment s'organise la résistance aux reculs sociaux imposés par ce gouvernement d'ultra-droite. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes hertziennes.
Oui.
Mot qui disparaît du vocabulaire de plus en plus. Au 107,9 FM de Radio Victoria, 2 fois par semaine. Vous pouvez aussi le faire en balado en vous rendant sur notre page à nous, là, les Apatrides Anonymes de Choc, sur la page de choc.ca, ou encore sur notre propre site internet apatridesanonymes.info. On vous invite aussi à nous écrire à apatridesanonymes@commercialresist.ca et à suivre notre page
FB. Merci.
Merci. Oui,
merci,
belle,
FB.
Vous complétez bien.
Plein d'articles d'infos migrants, entre autres. Oui.
Merci à vous, mes extraordinaires co-animateurs.
Ah, merci à toi, fantastique Marie-Ève.
Super animation ce soir.
On va se laisser en musique avec la pièce Palestina. On en a parlé, c'est Simon qui en a parlé un peu, justement, de la Palestine.
Oui.
Avec le programme.
L'excellent programme.
L'excellent programme qui est une réussite sur toute la ligne. Alors, avec la pièce Palestina, qui est un vibrant hommage au peuple palestinien, il s'agit d'une collaboration entre le rappeur et historien de Québec, Webster, et les artistes 4C, Quiz7A, Donna Nam, Amel Zaza, Mohamed Masmoudi et DJ Nerve. La chanson appelle à reconnaître les crimes commis contre le peuple palestinien, à boycotter Israël et à soutenir la lutte pour la liberté et la dignité de la Palestine. Alors, on s'en va écouter ça, Palestina. Et
Bonne soirée à tout le monde.
Ouais, bonne soirée.
Bonne soirée et à dans 2 semaines.
De l'injustice, que les frontières s'effacent, que la lumière persiste. L'oppressé résiste, l'occupant insiste. Des larmes et des cris sous les poids des blocus. Dans le désert de l'injustice fleurit la solidarité. Perso est brisé, y'a plus d'humanité. Que le tout-puissant leur donne la force de résister. Mur de séparation, frontière de désarroi. Qui peut décimer une nation sans qu'on le voit, ils s'approprient leur toit, c'est pour briser leur mental. En voyant les gens de Gaza, comment ne pas être sentimental. Les larmes coulent à flot. Les larmes coulent à flot. Les larmes coulent à flot. Les larmes coulent à flot.
Les actions sont bénignes, le sang coule, l'hémorragie des exactions de Benjamin. Une cour pénale, mais qui voudra l'incarcérer. L'Occident est un complice qui ferme les yeux, les garde serrés. La vérité, trop peu de gens la voient en face. Toutes ces bombes, ces drones qui fauchent de leur enfance. La vérité, il faut l'appeler génocide. Viva, viva Palestine, et jamais la jeunesse cède. La vérité, il faut l'appeler apartheid. Appeler au boycott que le monde fournisse apartheid. La vérité, on doit nommer les crimes de guerre. Israël est un voyou qui demeure sourd au cri du cœur. Ils ont rendu illégal de récolter l'eau de pluie. Ils bombardent les réfugiés, voient tous ces hôpitaux détruits. Le désarroi, je vois mon nom sur les missiles. Le Canada et son soutien, complice pas si implicite.
City, Galat Kisama. ما تنساش مهما طال لهالأرض إحنا ولاد وخلي ضل إسرها
It feels weird to be living when people are dying and all you can do seems like it's not enough. It feels weird to hide from living, that we are living, moving, dancing, loving, still upright from the gravity of the world, of these times. But we live, we are alive, we keep living even as bombs drop, buildings fall, hospitals, universities, schools, mosques, churches. The worst is it's a normalized state. We live, we rebuild, we live. 25,000 tons, that's two nuclear bombs worth sinking into the earth, burying what could have been. In just 100 days, not the last 75 years even, we live, we rebuild, we live. I remember my parents talking about how people would live on water until the dust settled and bird songs could be heard again. People would return to shore, to pieces of their homes, unrecognizable, stick by stick, frond by frond, rebuild, knowing the cycle may never end. They said it's so matter of fact, like, what else are you supposed to do but to keep living? So life lives, another day and another one. Generations of wars, occupations, colonization, domination, hidden and forgotten, we've lived. Inshallah, God willing, we can live another day to see Palestine free.
Un mot arabe qui n'a pas son équivalent dans la langue du colon. Un mélange de résilience, résistance inébranlable. Une résilience qui ne cède rien, qui ne capitule pas, qui prend son souffle pour se relever et toujours lutter. Soumoud, c'est la majestuosité des oliviers cinq fois millénaires qui narguent le jabarout du colon. C'est la pastèque de Beit Hanoun qui devient drapeau, c'est le rouge vert blanc noir qui fait trembler le mur de l'apartheid et l'état voyou. C'est Handala qui se momifie dans ses 10 ans tout le temps qu'il faudra pour que les enfants et petits-enfants de Nakba tournent la clé dans la serrure. Soumoud s'est appelé Palestine et nommé chacune de tes villes et villages. Safad, Akka, Bissen, Bir Saba, Gaza, Haïfa, Al-Khalil, Yafa, Al-Ramla, Al-Quds, Janine, Al-Nasira, Tabriye, Toul, Karam. C'est préférer mourir en shahid que vivre en mostakine. C'est convertir chaque maison démolie en munitions à triboulette. Soumoud, c'est la koufiyé qui devient symbole de dignité, qui voyage d'un tout petit territoire vers le monde entier. C'est l'histoire d'un grand peuple dans un petit pays, dans la lutte pour la vie, annihile les frontières et insuffle au monde le sens de la dignité. À Soumoud, Houa Palestine, Achat Palestine, Hurra, Minan Nahr, Ilal Bahr.